On dit dans l'expressionnisme, c'est un mouvement, un monde artistique allemand qui est né avant la guerre de 1914. Et en particulier, c'est un mouvement pictural. Mais une partie des peintres expressionnistes, peut-être les plus grands, les meilleurs, enfin ceux qui avaient le plus d'avenir, comme Franz Marc et j'ai oublié son prénom, enfin il s'appelait Mack, ce sont des gens qui sont morts dans les premières années, enfin la première année de la guerre de 1914. Et ce qu'on appelle au cinéma l'expressionnisme est venu après la guerre de 1914. Par conséquent, de toute façon, c'est un post-expressionnisme. À ce moment-là, je crois, le mouvement expressionnisme en allemand était en passe de s'éteindre. Si on l'appelle expressionniste, c'est surtout parce que le film le plus célèbre des films allemands d'après-guerre était le cabinet du docteur Caligari, où les décors étaient peints dans l'esprit expressionniste, par enfin, j'ai pas beaucoup de mémoire, enfin, je ne sais pas comment s'appelait le
Décorateur.
décorateur, enfin, je ne sais plus, enfin, bon, peu importe, c'était quelque chose comme Heinemann, mais je ne sais pas si c'est ça, enfin, je me trompe. Bon. Oui, parce qu'il y a des décorateurs qui sont, je crois, Walter Röhrich. Walter Röhrich est quelqu'un qui a travaillé avec Murnau, mais lui-même s'était inspiré de dessins, d'esquisses qui étaient d'un peintre expressionniste. Alors, voilà l'expressionnisme proprement dit, l'expressionnisme pictural. Mais on peut élargir la notion d'expressionnisme et considérer que dans le jeu de l'acteur, dans ces films-là, il y a un style qui est, qu'on peut appeler, non seulement expressif, si vous voulez, mais vraiment expressionniste, parce qu'il cultive, on peut dire, l'expression pour elle-même, et qui est tout à fait différent du style naturel, enfin cherchant le naturel, que l'on voit soit dans les films américains, soit dans les films français de cette époque-là. Alors Murnau est le moins expressionniste des cinéastes allemands de son temps, parce que d'une part, il fait peu appel à la plastique expressionniste, au décor expressionniste, enfin ses décors sont plus proches de la nature. Bon. Très souvent même sont des décors naturels, dans Murnau il y a des décors naturels, il y a aussi des décors en studio, mais ils n'ont pas beaucoup d'extravagance par rapport à ceux d'autres films. Même s'il est vrai que par exemple dans Faust, vous avez des routes courbes, des arbres penchés, des barrières qui sont au milieu de la route, on ne sait pas pourquoi. Bon, non. Et d'autre part, en ce qui concerne le jeu de l'acteur, il y a une recherche de l'expression, si vous voulez, mais il a un style très personnel. Qui n'est pas. Qui est assez différent de cette théâtralité, ce qu'on peut appeler la théâtralité expressionniste. Voilà.
On pourrait dire aussi que Murnau, vous le dites d'ailleurs dans votre livre, vous le rattachez plus à une tradition baroque allemande, ou même gothique allemande et romantique. Et vous allez même assez loin puisque vous parlez des dessins de Victor Hugo, par exemple. Et puis bon, évidemment, la tradition, la filiation Goethe. Murnau serait à ce moment-là quelqu'un qui aurait hérité du romantisme allemand du 19e?
La personnalité de Murnau est très forte. C'est un homme qui s'est forgé sa propre personnalité. Bon. Et par conséquent, pour toutes les personnes qui ont une personnalité forte, si vous voulez, les références sont parfois des références qui sont très loin d'eux, dans l'espace et dans le temps. Bon. Par conséquent, faire de Murnau un représentant, si vous voulez, de l'art de son temps dans une limite de durée assez courte, dans un espace restreint, si vous voulez, c'est-à-dire le définir uniquement par son appartenement à l'école expressionniste, c'est trop peu. Il déborde largement ce cas. Alors c'est pourquoi, dans Murnau, on trouve tout l'art de tous les temps, si vous voulez. On trouve toute la peinture. Et si dans mon film, j'ai fait référence à un nombre considérable d'artistes, si vous voulez, de tous les temps, c'est pour montrer, d'une part, l'originalité, et d'autre part, le classicisme profond de Murnau.
Donc il en ferait la synthèse, et en même temps, bon, il a cet aspect à la fois monumental et complètement intimiste, tout à fait moderne dans le cinéma, bon, qui fait par exemple que Lotte Eisner, on appelle ce qu'elle appelle le Kammerspiel film, donc en fait, ce correspond à l'esprit presque de Ibsen, Tchekhov, beaucoup plus à ce moment-là, avec un jeu très. Enfin, on aboutit bon, à des films comme par exemple L'Aurore ou City Girl, un jeu complètement intérieur et tellement simple, tellement subtil et tout le contraire, par exemple, d'un Conrad Veidt, même y compris dans certains films, les premiers Murnau.
Oui. Je suis allé récemment en Allemagne pour le centenaire de Murnau et un journaliste m'a posé la question, vous êtes français, qu'est-ce que Murnau pour vous a d'allemand, enfin qu'est-ce qu'il vous parle allemand? Et j'avais répondu, c'est l'universalité. C'est-à-dire, et j'ai dit, si Murnau est un simple représentant de l'école expressionniste, à ce moment-là, bon, c'est très allemand puisqu'il est exprimé en France, mais il n'a pas d'universalité car l'expressionniste n'a pas pris dans les autres pays. Bon. Et c'est pourquoi, plutôt que de le comparer au peintre expressionniste, je préfère le comparer aux grands créateurs d'allemand dans tous les domaines, aussi bien en philosophie comme Kant, Hegel, etc. Bon. En musique comme Mozart, Beethoven, ou en littérature. Bon. C'est pour montrer le cas que je fais de lui. Mais je peux ajouter, pour répondre à la seconde partie de votre question, que effectivement l'art de Murnau commence par l'extériorité, c'est-à-dire que c'est le contraire, si vous voulez, de l'art allusif tel qu'on le voit en particulier dans le cinéma de Chaplin. Un film de Chaplin est célèbre pour cela, c'est l'opinion publique, si vous voulez, qui a fait grande impression et qui a même impressionné un autre cinéaste allemand qui s'appelait Ernst Lubitsch. C'est un art d'allusion, c'est un plan dans lequel un signe, c'est un art des signes dans lequel là, on parvient à la pensée, si vous voulez, par les traces, si vous voulez, que l'intention laisse dans le comportement. Eh bien, c'est pas du tout la démarche de Murnau. La démarche de Murnau est une démarche beaucoup plus extérieure, si vous voulez. Murnau renforce l'expressivité du geste. Il renchérit, si vous voulez, sur le geste. Il n'essaie pas d'utiliser l'allusion. Mais malgré cela, il parvient aussi bien, sinon mieux, à l'intériorité, et c'est là peut-être son secret. Et effectivement, dans ses derniers films, cette intériorité est extrêmement forte, en particulier, comme vous dites, dans l'horreur, et un autre film que je ne sais pas si vous l'avez cité, qui est Tabou, dans lequel la seconde partie de Tabou, c'est un miracle, si vous voulez, un miracle d'intériorité, dans la mesure où Murnau est arrivé à montrer ce qui se passait dans l'esprit des personnages, est arrivé à évoquer toute la vie intérieure, je pourrais même dire la vie de l'âme, si on peut dire, de façon allant plus loin, si vous voulez, pour montrer qu'il s'est attaqué à quelque chose qui est de plus subtil, il s'est attaqué à l'invisible, il a montré l'invisible sans se servir du signe codifié, selon l'école, si vous voulez, opinion publique, et sans se servir aussi du texte, car dans Tabou, il n'y a absolument aucun texte. Enfin, il n'y a aucun sous-titre, enfin, il y a un texte, mais c'est un texte qui est uniquement emprunté à des textes réels qui sont par exemple des notes est en train d'écrire l'officier de police qui est chargé de la surveillance du lieu, bon, ou bien ce que lit le courrier que reçoit un prêtre, mais qui sont de pures informations et qui n'ont rien à voir, qui nous renseignent absolument aucunement sur les sentiments des personnages.
Justement, je voulais poser la question de la trajectoire de Murnau, c'est-à-dire comment on part de films bon, comme La Terre qui flambe, avec donc un aspect très terrien, je dirais L'ombre qui plane de Nosferatu, et puis effectivement La Lumière, qui est quand même un peu relative, mais La Lumière quand même de Tabou, c'est-à-dire il y a une trajectoire. Alors, bon, on part d'abord d'un cinéma, vous avez souligné l'universalité de Murnau, bon, qui débute en Allemagne et qui finit aux États-Unis. Mais je voudrais savoir comment on peut comprendre une trajectoire qui part effectivement peut-être de La Terre qui flambe, qui passe par Nosferatu et qui va vers Tabou.
Chronologiquement, je ne sais pas si vous avez raison. Je vois que La Terre qui flambe est postérieure.
Postérieure à Nosferatu.
Je crois. Je ne suis pas absolument certain. Enfin, en tout cas, bon. Bon, je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Enfin, je n'irai pas. Je serai peut-être pas exactement comme vous. Je pense d'abord d'une certaine façon, c'est difficile de définir la trajectoire de Murnau, et ça, il faut le dire, dans la mesure où ça, c'est très regrettable, un certain nombre de ses films ont disparu. Bon, c'est-à-dire que je crois que c'est à partir de Nosferatu. Enfin, nous avons le voyage, la marche vers la nuit, parce que Dernier Linhart, j'ai remarqué que c'était traduit par La marche dans la nuit. Non, c'est pas dans la nuit, c'est l'accusatif, c'est vers la nuit. C'est l'histoire de quelqu'un qui devient aveugle, il va vers la nuit. Bon. Et ensuite, il y a des lacunes, et puis nous tombons sur, je me souviens plus si c'est Nosferatu ou la Terre qui flambe, enfin peu importe. Donc, certains éléments nous manquent. Mais moi, je dirais plutôt qu'il y a toujours chez Murnau une opposition de l'ombre et de la lumière. Et que ces films sont faits là-dessus. Bon. Alors, dans certains, c'est l'ombre qui triomphe. Dans d'autres, c'est la lumière. Tantôt, c'est à la fois les deux. Enfin, il y a toujours un combat qui est un combat incertain entre l'un et entre l'autre. Et par exemple, dans Nosferatu, la question se pose de savoir si l'héroïne est morte ou vivante. Enfin, bon. Voilà comment moi-même je présenterai la question.
Et une autre question, c'était l'opposition ville-campagne, mais ça c'est peut-être plus simple. Et comment Murnau arrive à travers son cinéma qui présente, vous avez beaucoup insisté dans votre livre sur les formes, et en même temps l'espace pictural, architectural, et puis ensuite vous arrivez sur l'espace filmique, mais comment il arrive en fait à nous représenter d'histoires qui nous interrogent sur nous-mêmes, sur la destinée, je dirais, de l'humanité, et qui sont de véritables tragédies, même s'il y a du happy end. On pourrait revenir d'ailleurs sur le problème du happy ending chez Murnau, mais c'est véritablement, il nous émeut avec des choses qui nous interrogent sur la destinée de l'homme, le sens, la signification de notre vie. Je veux dire, par exemple, quand on voit dans l'aurore la barque, les personnages confrontés aux éléments naturels, la tempête, etc., on a l'impression ça nous renvoie à quelque chose de notre origine d'homme, c'est-à-dire... on se sent extrêmement fragile. Et je crois que c'est un des rares cinéastes, peut-être avec Dreyer, et c'est peut-être pas un hasard, parce que c'est peut-être le Nord aussi, qui soit arrivé à le traduire. J'aimerais que vous en disiez peut-être plus sur ce sentiment de traduire, je dirais presque l'origine de l'homme, quelque chose de notre destinée.
Oui, il est certain que les sujets de Murnau sont des sujets plus ambitieux, littérairement plus ambitieux, que la plupart des sujets de son temps. Je pense même que de son temps, dans ce domaine, si vous voulez, de rivaliser avec ce que la littérature avait de plus haut, on ne peut pas aller plus loin, parce qu'il a traité de grands sujets. Il a traité Faust, qui était un chef-d'œuvre, Tartuffe, des romans comme Le Fantôme, de Gerhard Hauptmann. Je ne peux rien dire des autres romans, de celui qui a inspiré l'aurore, je ne sais pas quelle était la valeur littéraire du roman, etc. Bon. Mais vous me direz que ça, c'est pas une preuve, et qu'on peut faire du mauvais cinéma avec la bonne littérature qu'on a fait. C'est peut-être dans l'esprit, si vous voulez, qu'il a apporté dans l'adaptation, la transcription de ses œuvres, qu'il se montre plus ambitieux que dans son temps. En tout cas, il est très éloigné de la conception naïve et mélodramatique de Griffith, de la conception naïve et enfantine, il faut le dire, malgré son génie, de Fritz Lang, puisque inspiré d'histoires policières, sur des scénarios de Théâtre Larbou, enfin, qui sont des scénarios très, disons...
Ils ont travaillé...
De ce côté...
Ensemble, puisque
Théophane
Arbou a écrit aussi pour Murnau.
Rappelez-moi dans...
Je crois que c'est Fantôme, il me semble.
Oui, il a travaillé dans Fantôme, oui. Je crois.
Il y a un scénario qui est Théophane Arbou.
Mais il n'a pas... Enfin, il n'y a pas ce côté, disons, sans... Non pas péjoratif, mais enfin, un peu puéril de langue. Enfin, ce côté, bon... ce côté bande dessinée, si vous voulez, qui est davantage, et roman d'aventure, enfin, qui est là chez l'art. Donc, il y a effectivement une très grande ambition, une ambition de... Oui, si vous voulez, moi je dirais que, pour moi, Murnau, je ne me place peut-être pas exactement de ce point de vue, sans m'y placer tout à fait, parce que pour moi, il m'est difficile de dissocier la forme et de dépasser le fond. Bon. C'est-à-dire qu'il y a... Murnau a traité, sous des formes différentes, un problème, par exemple, qui n'est pas un problème, qui n'est pas traité par Griffith, à mon avis, et qui n'est pas traité par Lang, pour prendre d'autres très grands cinéastes. Je pense que Murnau s'attaque de front à ce qu'on pourrait appeler le problème de l'être. Et là, je crois qu'il y a très peu de cinéastes dans l'histoire du cinéma qui aient abordé ce problème. Enfin, je crois que, de ce point de vue... on pourrait le rapprocher de quelqu'un s'il m'appelant comme Renoir. Bon. Mais Dreyer, je ne sais pas. Dreyer, moi je préfère, personnellement, je pense que Murnau, de ce côté-là, en ce qui concerne l'être de l'homme dans le monde, me me satisfait plus, peut-être, enfin, me fait aller plus loin que Dreyer, mais ça, c'est peut-être une question d'affinité. Enfin, voilà ce que je réponds, pour montrer à quel point, quelle admiration je tiens pour Monod. Et puis alors, il y a ce film Le Dernier des Hommes, qui, alors lui, est un très grand moderniste, enfin, qui annonce déjà une littérature moderne, enfin, disons que Le Dernier des Hommes annonce déjà Beckett. Enfin, là, mais c'est, on ne pourrait pas dire ça, cela des autres films, qui ont une texture plus classique et où la modernité est plus à chercher, si vous voulez, dans la mise en scène plutôt que dans l'argument.
Monod est mort jeune, avec une œuvre très très inachevée, puisqu'on ne sait pas très bien quelle direction elle aurait pu prendre. Mais j'ai le sentiment que dans le cinéma, il a laissé, enfin, il est comme une grande ombre qui plane sur le cinéma et qu'il a des héritiers. Moi, je verrai pas mal de films qui sont influencés par Murnau, bon, par exemple La femme au corbeau de Borzage, ou même par exemple, j'ai l'impression que même certains Hitchcock comme Vertigo ou autres, peut-être, je sais pas, hein, mais on peut peut-être trouver la trace de l'influence de Murnau. Bon, là je finirai donc sur cette dernière question. Est-ce qu'il y a des héritiers pour vous de Murnau dans
oui,
le cinéma?
Alors, est-ce que j'ai même que vous? Bon, alors Hitchcock, oui et non, oui. Enfin, c'est-à-dire que d'un point de vue Hitchcock, comme Murnau, est un grand créateur de forme. Et les grands créateurs de forme se ressemblent parce que, si vous voyez, quelqu'un qui est riche, qui a de l'invention dans la forme, eh bien, fait comme a fait Murnau, enfin, d'une façon incomparable, c'est-à-dire qu'il mobilise toute la surface de l'écran, si vous voulez. C'est quelqu'un qui a une richesse. Bon. Alors, il est certain que chez Murnau, il y a des images dans lesquelles, eh bien, il y a une utilisation, si vous voulez, de la richesse, de l'étendue spatiale de l'écran, en fait, de toutes ces possibilités plastique, qui est extraordinaire, mais donc de ce point de vue se ressemble. J'aimerais mieux enfin, le comparer d'une autre façon, si vous voulez, enfin pour la profondeur de sa visée, si vous voulez. Je préfère le comparer par exemple à Renoir, chez qui il y a également un thème. Le thème de la nature est très fort. Alors, le thème de la nature est très fort chez Murnau. Mais le thème de la nature, non pas pris d'une façon superficielle et pittoresque, si vous voulez, comme la beauté du paysage, mais comme, qu'est-ce que la nature? La nature, c'est la nature, la vie, c'est-à-dire, le déroulement, si vous voulez, d'un être, la naissance et la mort. Bon. Or, le thème fondamental de Murnau, et qui devient en même temps un thème plastique, c'est l'éclosion et le flétrissement. C'est-à-dire, c'est un mouvement, comme je l'ai expliqué dans Faust, c'est un mouvement dans le livre que j'ai écrit sur le Faust de Murnau, où c'est très très net, c'est peut-être le film dans lequel c'est le plus net. Et chez Murnau, il y a un double mouvement d'expansion et de contraction. L'expansion exprimant la vie, exprimant le progrès, la naissance, etc., la croissance, et au contraire, la contraction exprimant le flétrissement et la mort. On trouve ce thème, à mon avis, plus dans un cinéaste comme Renoir, parfois chez Rossellini aussi, par exemple dans un film comme Stromboli ou comme Voyage en Italie, que chez Hitchcock, que j'aime beaucoup, mais ces thèmes sont plus liés à ce qu'on pourrait appeler l'action, c'est-à-dire c'est... Il s'agit moins, c'est un cinéaste qui est, c'est un cinéma de l'acte plutôt que de l'être. Voilà ce que, de même que le cinéma de Fritz Lang. Non, j'aimerais comparer plutôt Murnau, ça c'est très paradoxal d'ailleurs, et un film de Murnau m'y a incité, j'aimerais mieux comparer Murnau à un autre cinéaste américain, et qui paraît en apparence tout à fait différent de lui, qui n'a pas aucun rapport, mais avec qui profondément il y a des affinités. C'est Howard Hawks. Parce qu'il y a chez lui également une conception de l'être en tant que tel et qui apparaît surtout dans sa scène comique, et certaines scènes comiques de Murnau sont assez proches du comique hawksien, si on peut dire, c'est-à-dire un comique qui n'est pas fondé sur le pressentiment, qui n'est pas fondé sur l'intelligence, mais qui est fondé simplement sur la nécessité, c'est-à-dire il est nécessaire que quelque chose arrive, et c'est une chose qui est prévisible, c'est une chose qui ne peut pas ne pas arriver, et qui pourtant ne devrait pas arriver, et pourtant elle arrive, et c'est ça qui fait rire. Et dans un film de Murnau qui est peu connu, et que je présenterai d'ailleurs dans 8 jours au musée d'Orsay, qui s'appelle Les Finances du Grand-Duc, eh bien il y a un ton de comédie, c'est un film de comédie, enfin, il y a déjà un ton de comédie américaine, qui me fait penser plus qu'à Lubitsch, auquel on l'a comparé, à Howard Hawks. En particulier dans le passage où une jeune femme se déguise en vieille femme. Et dans nombre de films de Hawks, nous avons également ce thème du déguisement et d'un déguisement burlesque. Et voilà pourquoi je me permets cette comparaison.
Je voulais justement vous demander pourquoi vous aviez choisi les finances du Grand-Duc.
Eh bien, je viens de vous donner ma réponse précisément. C'est pour pouvoir un peu faire un rapprochement entre ces deux cinéastes que j'aime beaucoup et qui sont des cinéastes difficiles, enfin, des cinéastes et qui résistent un peu à l'analyse et sur lesquels, par conséquent, on peut aimer à parler.
Je vous remercie, Eric Rollin.